Hélas, mes petits-enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants? Le petit poucet, Charles Perrault. Lecture de la deuxième partie de L'enfant océan de Jean-Claude Bourlevin. Récit de Fabien d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. Dans la matinée, plusieurs voitures ont ralenti et on a eu peur de se faire prendre. Même séparés, on nous remarque, même avec Yann dans le sac. Une fois qu'on a eu fini notre pain dans le bois, on en a parlé avec Rémi et les moyens. Il faut plus qu'on suive la route, sinon on n'ira pas loin, on nous prendra. Et si on nous prend, je sais ce qui arrivera, on nous ramènera chez nous. On aura beau expliquer aux gendarmes pourquoi on s'est sauvés, ils nous croiront jamais. Et dès qu'ils auront tourné le dos, les gendarmes, le père nous foutra une bonne raclée et il nous fera ce que Yann a dit. Il nous tuera tous les sept. On n'en parle jamais de ça, ni en marchant, ni aux pauses quand on se retrouve. On n'a pas le droit. C'est comme un gros mot qui serait impossible à dire. Même les petits comprennent ça, alors ils suivent et ils demandent rien. Ou alors, juste où on va, ça ils ont le droit. C'était dans la cabane ce matin. Rémi a répondu, on va vers l'ouest, vers l'océan. Et moi j'ai ajouté, l'océan Atlantique. Il y a eu un silence et on l'a tous vu l'océan. On a entendu les vagues sur le sable. Ouf. Et on a senti le vent sur notre peau. J'en ai eu la chair de poule. Une autre fois, Victor a demandé quand est-ce qu'on arriverait. Et là, c'était moins commode pour répondre. Si on quitte la route et qu'on prend plus que les chemins, eh bien, on n'est pas près d'arriver. Ça multiplie la distance par deux facile. Un avantage, par contre, et qui nous soulagerait bien, Rémi et moi, enfin, surtout Rémi, parce que les forces commencent à lui manquer, c'est que Yann pourrait sortir de son sac. On le cacherait seulement en cas d'alerte ou bien quand il serait trop fatigué. Pour s'orienter, ça changerait rien, vu qu'avec Yann, c'est pas sorcier. Il a une boussole dans la tête ou des antennes ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il n'hésite jamais longtemps. Il tourne sa petite tête vers le ciel, il la fait pivoter dans tous les sens et puis il pointe son doigt et nous, on suit. Comme ça m'intriguait cette affaire, à un croisement, je lui ai demandé « Mais comment tu fais ?» La lumière, il m'a dit. La lumière dans le ciel, vers l'ouest, c'est plus clair. Oh ben moi, je vois pas de différence. Récit de Rémi d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. On a quitté la route. C'est mieux parce qu'on peut pas marcher tous ensemble et puis on n'a plus à se coltiner le sac, Fabien et moi. On commençait à avoir les bras et les épaules bien endoloris. À la fin, on avait trouvé un truc. On portait à deux, chacun une anse et le sac entre nous, comme si on revenait de faire les commissions. Mais on avait beau changer de côté tous les 100 mètres, ça nous sciait quand même méchamment les doigts. Bref, on porte plus le sac et ça nous soulage drôlement. Surtout Fabien, qui est un peu moins costaud que moi. On suit les chemins, les sous-bois, le bord des rivières. Parfois c'est large. On marche de front, d'un bon pas. Presque gaiement. Plus loin, ça se resserre et on va en file indienne. Ailleurs, on s'égare dans des herbes hautes. Il faut qu'on prenne Yann sur nos épaules et on ressort trempé. Il y a des moments où on se décourage un peu. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais nulle part, qu'on pourra bien s'enfoncer les jambes dans le ventre à force de marcher, que tout ça servira à rien. Mais aucun d'entre nous veut être le premier à se plaindre. Alors, on se tait et on continue. Parfois, on est récompensé. Vers la fin de l'après-midi, par exemple, on a suivi longtemps un chemin de halage le long d'un canal qui allait vers l'ouest. C'était bien. On marchait au sec. On n'avait ni trop froid, ni trop chaud, ni rien du tout. Sans le vouloir, on a accéléré comme si le canal menait tout droit à l'océan et qu'on l'atteindrait peut-être avant la nuit si on allait assez vite. On savait bien que ce n'était pas vrai, mais ça nous faisait plaisir de penser comme ça. À un moment, on a tous fait nos besoins ensemble derrière un taillis. On s'est essuyé comme on a pu avec des feuilles et on s'est lavé les mains dans l'eau du canal. Elle n'était pas chaude. C'est juste après ça que la nuit est tombée d'un seul coup et que le froid nous a saisis. On a marché encore un peu. Mais le chemin est vite devenu étroit et il a fini par se perdre tout à fait dans les orties. On a fait demi-tour sur un bon kilomètre jusqu'à un pont et on s'est assis contre le petit mur de pierre. Les moyens avaient leur œil des mauvais jours, bien noir et bien farouche. Et comme en plus ils susautaient tous les deux les lanières de leurs casquettes, c'était pas difficile de comprendre qu'ils avaient faim. Les petits avaient l'air fatigués maintenant. Où est-ce qu'on va dormir? A demandé Victor en ôtant ses souliers de dame. On a vu que ses deux pieds était blessé dessus, ça faisait des barres rouges pas bien jolies. Il était rudement courageux de continuer comme ça. Par-dessus le marché, la brûlure des orties avait couvert ses chevilles de petites cloques blanches. Comme personne répondait, sa bouche s'est tordue, et il a commencé à pleurer en silence. J'ai fait comme si je l'avais pas vu, et les autres pareil. De toute façon, on n'avait pas de quoi le soigner. Alors, ça aurait rimé à quoi de faire semblant? Dans ces cas-là, si on console, c'est tout de suite les grandes eaux. Il vaut mieux regarder ailleurs. On en était là de notre brillante situation quand Yann a levé son index. Vous entendez? On n'entendait que dalle, à part les reniflements de Victor et le floc d'une grenouille dans le canal, c'était le silence. Mais comme Yann tenait toujours son doigt en l'air, on a tendu l'oreille. Et on a fini par entendre aussi un grondement sourd très lointain. Et puis, on a distingué une traînée de lumière à l'horizon, comme un long coup de griffe rouge dans le noir de la campagne. Le train fonçait dans la nuit, à pleine vitesse. Il allait vers l'ouest. Récit de Colette Faure, retraitée, 68 ans. Les gens ne me croient pas quand je leur dis. Ils vont qu'à venir passer quelque temps chez moi. Une, ça me ferait de la compagnie. Et deux, ils verraient que je ne mens pas. Je vous défie de regarder la voie ferrée plus d'une demi-journée sans voir quelqu'un qui marche le long. Ça vous étonne, ça? Et pourtant, c'est la vérité vraie. Ça fait 15 ans que je la regarde, moi, la voie ferrée. J'ai ma chaise à la fenêtre. À droite, c'est la télé. À gauche, la voie ferrée. Et entre les deux, il y a moi qui regarde, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt la télé, tantôt la voie ferrée. Quand j'en ai marre, je donne à manger au chat et je le regarde faire. Ne dites pas, avec le nombre de chemins qui existent, de routes, d'autoroutes et le reste, on se demande pourquoi ils éprouvent le besoin de marcher là. Mais je commence à avoir mon idée. Ils marchent là, une, parce que c'est tout droit, et deux, parce que au bout, il y a toujours une gare. Ça leur fait deux certitudes, et ça repose. En général, c'est des personnes seules. Ça va tête baissée à broyer du noir. Enfin, je suppose, quand on marche tout seul le long d'une voie ferrée, c'est pour quoi faire, si c'est pas pour broyer du noir? Parfois, j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre et de leur brailler. Ça s'arrangera pas, votre affaire. Couchez-vous sur le rail, le prochain passe dans 5 minutes, vous serez tranquille comme ça. Ça me fait rire toute seule. Je suis pas méchante, non, juste un peu taquine. On se distrait comme on peut. Ça m'est venu avec l'âge. J'étais pas tordue comme ça avant, il me semble. Je le fais pas quand c'est des jeunes, et surtout si c'est la nuit. Ceux-là sont passés à 11 heures du soir. C'était les actualités sur la 2, j'ai repéré l'heure comme ça. 4 gars à la queue leu-leu, et devant, un drôle de petit bonhomme qui trottait. La lune donnait en plein, et je le voyais comme je vous vois. Imaginez un gamin avec une veste des années 50, boutonnée au milieu, et vous avez le tableau. Il faisait 3 pas quand les autres en faisaient 1, et il se dandinait comme un pingouin sur la banquise. 100 mètres derrière, en voilà un 6e qui emporte un autre sur son dos. J'ai attendu un peu, des fois qu'il en serait arrivé d'autres, mais non, c'était les derniers. Le défilé était terminé. En passant devant la maison, celui qui se faisait porter a regardé longtemps vers moi. Je lui ai fait un mouvement du menton. « Tu veux ma photo ou quoi ?» Périgueux est à plus de 30 kilomètres. Les enfants, je me suis dit, si vous voulez y être avant le jour, il faudrait voir à accélérer la cadence. Quand ils en ont parlé dans le journal la semaine d'après, j'ai vite appelé les gendarmes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Une, parce qu'ils avaient déjà retrouvé les gosses, et deux, parce qu'on m'écoute jamais, moi. Récit de Max Doutrelot, 11 ans, frère de Yann. On est arrivé, qu'il a dit, Fabien. Il reste juste quelques kilomètres. La ville s'appelle Périgueux. On va marcher jusqu'à la gare et on prendra le train. Le jour se levait juste. De chaque côté de la voie ferrée, des maisons grises sont sorties de la brume petit à petit. Dedans, il y avait des gens qui dormaient au chaud sans doute. Fabien aurait pu dire qu'il restait 12 kilomètres ou 120 ou 4 millions. Pour moi et Victor, c'était du pareil au même. On a regardé nos jambes pour voir s'il en restait encore, si elles n'étaient pas usées jusqu'aux genoux. Eh ben, il en restait encore. Elles marchaient toutes seules, nos jambes. Est-ce qu'elles allaient seulement nous obéir et s'arrêter quand on le leur demanderait? Devant la gare, il y avait une grande place. On s'est caché vers les poubelles. Les grands et les moyens ont parlé longtemps entre eux, et avec Yann, bien sûr. Victor et moi, on s'est recroquevillés l'un contre l'autre, parce qu'on avait très froid maintenant qu'on marchait plus. Je comprenais bien ce qui les faisait hésiter, les grands. C'est qu'ils n'avaient jamais pris le train et qu'ils ne savaient même pas comment on doit faire pour les billets et tout ça. C'est sans doute pas bien compliqué, mais quand on ne sait pas. À la fin, Pierre a pris le cabas bleu, il l'a déchiré sur 10 bons centimètres. Yann a grimpé dedans, Pierre l'a calé sous son bras et tous les deux sont entrés dans la gare. L'horloge marquait 7h30. Quand ils sont ressortis, il était juste 8h. Pierre nous a distribué les billets pour Bordeaux. Il n'y en avait que 3, mais quand on est jumeaux, ça suffit pour 6, il a dit. Récit de Victor Doutrelot, 11 ans, frère de Yann. Ça sentait pas très bon vers les poubelles, mais au moins on marchait plus. Je me suis calé contre Max, dos contre dos, et on a essayé de se réchauffer, en attendant que les grands décident quelque chose. J'ai fermé les yeux. Des voitures s'arrêtaient, d'autres démarraient, on entendait claquer les portières. C'était comme dans un rêve. Sans doute que ça fait ça quand on dort pas la nuit. La veille, j'avais pleuré un petit peu au pont. J'aurais bien voulu être courageux, mais c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher. Pas à cause des pieds qui me faisaient mal, ni des orties, mais parce que je me disais, le premier qui pourra plus avancer, c'est toi. Et comme ils voudront pas t'abandonner, eh bien, on s'arrêtera tous, on n'arrivera jamais à l'océan, et ce sera de ta faute. Heureusement qu'on a vu passer le train juste après. Ça nous a redonné de l'espoir, et on est reparti. Paul m'a porté sur son dos pendant plus d'un kilomètre. À un moment, on est passé devant une maison éclairée. Une grosse dame a écarté le rideau et m'a regardé sans se gêner. « Tu veux ma photo ?» j'ai marmonné. « Quoi ?» a répondu Paul. « Rien, je lui ai dit, parce qu'il n'avait pas vu la dame, que c'était trop long à expliquer et que ça n'avait pas d'importance. » Un peu plus loin, il est tombé en avant et s'est mâché le genou. Il est comme ça, Paul. Il dit pas qu'il est fatigué. Il attend de tomber et voilà. J'ai eu un peu honte et je me suis remise à marcher. Quand on est arrivé à Périgueux, il faisait jour et j'avais plus mal du tout. Les barres rouges sur mes pieds étaient devenues noires et un peu bleues aussi, je crois. Je me suis endormie aux poubelles. Il fallait en avoir envie, vu comme ça puait, et puis le froid. Juste avant, Pierre a fait exprès une fente dans le sac en déchirant la couture avec ses mains. Il a mis Yann dedans et ils sont entrés dans la gare. Récit de Valérie Massamba, 25 ans, étudiante. C'est moi tout craché, ça. J'ai tellement peur de rater le train que j'arrive à la gare avec 3/4 d'heure d'avance et je poirote. Dans ces cas-là, je me trouve une place sur un banc et je pique le nez dans un magazine. Ça veut dire en clair, je ne suis là pour personne, prière de ne pas déranger. Voilà pourquoi quand le garçon s'est assis juste en face de moi, je ne l'ai tout d'abord même pas remarqué. C'est l'odeur qui m'a alerté. Je ne sais pas quand ce gosse avait changé de chaussettes pour la dernière fois. Mais il était inutile d'avoir son diplôme de chien de chasse pour le suivre à la trace. Mamma mia! S'il avait été un adulte, j'aurais changé de place immédiatement. Seulement, il avait 12 ou 13 ans, pas davantage. Et puis surtout, c'était une pitié de voir comme il était fagoté. Un anorak marron qui ne fermait plus, des fils de laine qui pendouillaient aux manches du pull, la seule chose présentable était une casquette à oreilles qui le faisait ressembler aux aviateurs d'autrefois. Il tenait sur ses genoux un de ces cabas en plastique qu'on utilise pour les courses. Drôle de bagage pour voyager. Ce gosse ne devait pas aimer qu'on le chatouille. Ça se devinait à son visage taillé à la hache, à son menton carré. Mais il avait dans l'œil quelque chose de fragile tout de même, d'inquiet. Je suis étrangère et je le connais bien, ce regard. Il m'arrive de le voir dans mon miroir. Alors, je suis restée, malgré l'odeur. J'étais loin de me douter à ce moment-là à quel point cela deviendrait intéressant. Je vais essayer d'être claire, parce qu'il y a de quoi s'y perdre, vraiment. Pour commencer, quelque chose bouge dans le sac du gosse. Un chat, un chien, un lapin, un poulet? Aucune idée. Une seule certitude, c'est vivant. Mieux encore, le gosse se penche et parle tout bas à la chose qui bouge. Il doit bien aimer son chat, sa tortue ou son canari, pour lui faire des discours comme ça. Puis, il se redresse, observe intensément les voyageurs, replonge dans le sac et recommence. Plus de 10 fois. Tout cela dure 20 minutes au moins. Moi, je ne bronche pas. Je lis mon magazine. Enfin, je fais semblant. Soudain, le gosse se lève, marche vers un banc où sont assis un père de famille et ses 2 enfants qui viennent d'acheter leurs billets au guichet. Ils chahutent, ils ont l'air heureux de prendre le train ensemble, c'est peut-être la première fois. Mon petit roi du parfum passe derrière eux, dépose ni vu ni connu son sac à côté du leur et va se poster 10 mètres plus loin, près du kiosque à journaux. De là, il fait semblant de regarder ailleurs, mais il a tellement envie de voir les deux sacs qu'il en louche. J'en connais une qui louche aussi, elle s'appelle Valérie et c'est moi. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer, nom de nom? Ce qu'il fabrique, je vais le savoir bientôt et ça vaut le coup d'œil. Le sac en plastique a une fente sur le côté. De la fente émerge tout à coup une sorte de petit tuyau. Ce petit tuyau, c'est une manche de veste. Et au bout de la manche de veste, il y a quoi? Eh ben, il y a une main, évidemment. C'est tout naturel, non? Au bout d'une manche, il y a souvent une main, avouez-le. Vraiment, rien vous étonne. La main est minuscule, toute ronde. Elle tâtonne un peu. Elle a du mal à trouver le sac en cuir. Depuis sa cachette près du kiosque à journaux, mon petit gars fait des grimaces muettes. S'il le pouvait, il hurlerait « À gauche! À gauche! Encore! Là, tu y es !» Seulement, il ne peut rien faire. Juste regarder et souffrir. Finalement, il y est, la petite main. Zip! Elle actionne la fermeture éclair du sac. Crac, crac, elle fouille dedans. Elle en tire 3 billets de train pour Bordeaux. Encore. Et elle retourne là d'où elle vient. C'est fini. Mon petit gars ne perd pas une seconde. Il repasse derrière le banc, saisit le cabas par les deux anses, marche droit vers la sortie et disparaît. Juste à temps. Le père jette un coup d'œil à l'horloge et rameute sa troupe. Les trois se lèvent et se dirigent vers la voie 2, d'où part le train pour Bordeaux. « Dites, monsieur, n'oubliez pas de bien composter vos billets. »« Je sais, ce n'est pas bien. J'aurais dû dénoncer, signaler, alerter. »« J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. » À cause des yeux de ce gosse, ses yeux de petit animal traqué. Un quart d'heure plus tard, à peine remise de mes émotions, je m'installe dans l'express, au milieu du compartiment, là où les sièges sont en vis-à-vis. Jusque-là, j'avais vu des choses étonnantes, mais qui tenaient à peu près debout. Un gosse utilise son petit frère comme robot vivant pour piquer des billets de train. Bon, d'accord, surprenant, mais possible. C'est la suite qui allait me plonger dans un océan de perplexité. En effet, le voilà qui ressurgit dans le train, mon garnement, mais cette fois il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'un grand garçon pâle, aussi mal fringué que lui, et d'un gamin d'une dizaine d'années, affublé d'une paire de chaussures de femme. Il ne porte plus le cabas en plastique et il s'est changé de la tête aux pieds. Nouvelles chaussures, nouveaux pantalons, nouvel anorak. L'odeur, elle, est la même. J'adore les mots croisés 5 étoiles, les énigmes, tout ce qui donne à réfléchir. Et plus ça me résiste, plus je m'acharne. Bref, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Là, j'avais trouvé un mystère à ma mesure. Les trois prennent place autour de moi. Le plus jeune s'assoit à côté, avec un air aussi éberlué que s'il venait d'entrer dans une navette spatiale. Mais le train n'a pas fait 500 mètres qu'il bascule la tête en arrière, ouvre une bouche grande comme une assiette et s'endort. Ses chaussures de dame lui glissent des pieds. Le grand, en face de lui, n'a pas l'air moins ébahi, mais il essaie de faire bonne figure. Le moyen qui me fait face et qui aurait dû me reconnaître m'ignore totalement. On est presque à mi-chemin du parcours quand le contrôleur se pointe. « Vos billets, s'il vous plaît. » Il tend la main vers le grand garçon pâle et se trouble aussitôt. « Bah, vous avez changé de place ?» Le garçon devient cramoisi et bredouille. « Ben oui, on n'a pas le droit. »« Si, si, bien sûr, vous avez le droit. » Le contrôleur s'éloigne. Les deux garçons sont en apnée. Quand ils osent respirer de nouveau au bout d'une éternité, le regard qu'ils échangent est éloquent. Ça a marché. Surtout, ne bougeons pas et ne nous faisons pas remarquer. Le jeu de devinettes devient passionnant. Pourquoi le gosse à la casquette s'est-il changé? Pourquoi n'a-t-il pas montré les billets puisqu'il en a? Je le sais bien, moi, qu'il les a. Et pourquoi le grand a-t-il dit qu'il les avait déjà montrés? Où? Quand? Je ne suis pas loin de donner ma langue au chat quand l'indice suivant intervient. Il s'avance dans l'allée, mon indice. Il tient un sandwich dans chaque main et il ressemble trait pour trait, cheveux pour cheveux, au grand garçon pâle assis en face de moi. Il ne s'attarde pas. Il donne ses 2 casse-croûtes et s'en va. Ah! Des jumeaux, tout s'éclaire soudain. Si le grand garçon pâle a un frère jumeau, le moyen à la casquette en a sans doute un aussi. Ce n'est pas mon petit voleur qui est là devant moi, mais son frère. Voilà pourquoi il n'a pas les mêmes vêtements. Voilà pourquoi il ne m'a pas reconnu. Je tourne la tête vers le plus jeune, qui gobe toujours les mouches à côté de moi. Est-ce que lui aussi? La curiosité me dévore. J'irai volontiers jeter un œil dans le compartiment voisin. Dans le compartiment voisin, il n'y a rien à voir, et dans le suivant non plus. Je continue ma traversée cas un cas, et il me faut arriver tout au bout du train pour les débusquer. Ils sont là, tous les trois. Oui, j'ai bien dit, tous les trois. Le petit aussi a son jumeau parfait. Il dort en boule sur un siège. Un des grands lui a jeté une veste dessus. Mais il n'a pas de chaussures de femme, lui. Une seule place est libre, je m'y assieds. Mon petit voleur à la casquette me reconnaît aussitôt. Je lui adresse un rapide sourire. Salut, on se connaît. Il me le rend, mais c'est bien timide. En tout cas, j'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle maintenant. Il n'en manque plus qu'une. Où est la petite main? Où est celui à qui elle appartient? Où est le cabas bleu? Le train roule et nous secoue. La réponse m'arrive au moment où je ne l'attends pas. C'est mon petit voleur qui se trahit. Il jette deux coups d'œil vers le haut. C'est un de trop. Qu'est-ce qu'il y a donc à voir là-haut, dis-moi? À mon tour, je lève les yeux. Le cabas bleu est là, au-dessus de nos têtes, parmi d'autres bagages. La petite main furtive se glisse par la fente. Elle cherche, elle tâtonne, elle danse, elle fouille, elle chipe, elle se retire. Mais ce ne sont plus des billets de train qu'elle escamote aussi prestement. C'est une barre de chocolat, un paquet de biscuits, une tartine de fromage. Cette fois, mon petit voleur a vu que je voyais. Il rougit, baisse les yeux, revient à moi et finit par accepter mon regard. Nous avons alors une conversation muette. Lui, vous avez vu, hein? Moi, oui, j'ai vu. Lui, c'est rigolo, non? Moi, oui, c'est rigolo. Lui, ne dites rien, s'il vous plaît. Moi, je ne dirai rien. La petite main part à la conquête d'une pomme. La pomme est trop grosse, elle glisse, menace de tomber sur la tête d'un voyageur. Ton autre main, crions-nous ensemble et silencieusement, ton autre main. L'autre main apparaît, se faufile, cette fois la pomme est prisonnière. Elle ne tombera plus. Elle rejoint dans le cabas bleu le reste du butin. Le rire nous prend. On ne se connaissait pas une heure plus tôt et nous voilà complices. Je ne dirai rien, parce qu'on est dans le même camp, toi et moi. Parce que tu ne fais pas ça pour jouer. Parce que tu as un beau sourire malgré ta tête carrée. Peut-être aussi parce que tu as posé ta veste sur ton petit frère qui dort. Récit de Pierre d'Outrelo, 13 ans, frère de Yann. Oh, j'ai eu les pétoches. S'il n'y avait pas eu les autres qui attendaient dehors dans le froid, je me serais bien dégonflé. Mais j'avais promis alors. Je me suis assis sur un banc avec Yann sur les genoux et j'ai observé. Parce que les gares, les trains et tout ça, eh ben j'y connais que dalle, moi. Mais j'ai pas mis longtemps à comprendre. Les gens, ils achètent des billets au guichet, après ils attendent et après ils mettent leurs billets dans un truc qui fait clac. Ça doit faire un trou dedans, à mon avis. Et puis, ils vont monter dans le train et c'est tout. Assise en face de nous, sur le banc, il y avait une fille noire qui lisait un magazine. Mais elle a pas fait attention à nous, elle a même pas levé le nez. Il nous fallait 3 billets, pas plus. Yann les a chippés dans le sac d'un bonhomme que j'avais repéré. Il s'est débrouillé comme un chef. Personne nous a vus. Pour monter dans le train, on s'est séparés. On a défait les paires. Je suis restée avec Fabien et Max. C'est nous qu'on avait les billets. J'ai pris Yann aussi, parce qu'on commençait à faire une bonne équipe tous les deux. Dans le compartiment, je l'ai mis là où on met les bagages et il nous a fait un sacré numéro. Il nous a trouvé à manger pour tous. Des fois, je le changeais de place. J'ai juste eu peur quand la fille noire est venue s'installer près de nous. Elle n'arrêtait pas de nous regarder. Et au bout d'un moment, ce qui devait arriver est arrivé. Elle a vu le sac, la main de Yann qui dépassait, enfin, elle a tout vu. Mais elle n'a rien dit. Elle a même rigolé alors. J'avais jamais vu de gens noirs en vrai avant. Eh bien, si on me demande à l'avenir, je dirais qu'ils sont pas plus méchants que les autres. Récit de Paul d'Outrelo, 13 ans, frère de Yann. Dans le train, Victor s'est endormi illico. En face de moi, il y avait une fille noire. Elle arrêtait pas de me regarder au début. Qu'est-ce qu'elle me voulait, celle-là? Je la connaissais pas, moi. Quand le contrôleur s'est approché, on a serré les fesses. Rémi a répété tout bas dans sa barbe la phrase qu'on avait prévue pour les billets. On vous les a déjà montrés, on a changé de place. Mais on ne savait pas si Fabien les avait déjà montrés, justement. C'était un coup à pile ou face, ce truc. Eh bien si, ça a marché. Fabien, il n'a même pas eu à dire sa phrase. C'est le contrôleur qui l'a dit en premier. Vous avez changé de place ? On a mis un bon moment pour s'en remettre, jusqu'à ce que Fabien arrive dans notre compartiment et il nous apportait deux sandwichs. Ils étaient drôlement bons. Avec de la baguette bien croustillante, du jambon blanc premier choix, une bonne couche de beurre et même des cornichons coupés en deux sur la longueur. Ça, c'est du sandwich. Jamais de ma vie je m'étais autant régalée. En plus, je savais que c'était Yann qui les avait chourés et ça leur donnait un petit goût en plus à cause de ça. J'ai mangé le mien tellement vite que je me suis mordu la joue à l'intérieur. J'en ai gardé un tiers pour Victor quand il se réveillerait. Et Rémi a fait pareil. Récit de Gérard Farmangeon, 48 ans, commerçant. Le matin, je bois mon café et c'est tout, il n'y a rien d'autre qui descend. Alors quand je dois passer la journée à Bordeaux, comme l'autre jour, je m'emporte un casse-croûte et je le mange dans le train sur le coup de 9h. C'est mon petit plaisir, ça. Je me les mitonne, mes sandwichs au jambon. Je les prépare le jour même pour que le pain soit bien frais et je ne plains ni le beurre ni les cornichons. Donc ce matin-là, j'ai fait comme ça. Je les fourre dans mon sac en plastique et je dis à Josiane « Tu les mets dans mon sac, s'il te plaît ?» Elle répond « D'accord, je les mets dans ton sac. » Juste avant de partir, je lui repose la question par sécurité, quoi. « Tu les as bien mis dans mon sac, mes sandwichs ?»« Quoi ? Les sandwichs au jambon ? Tu les as bien mis dans mon sac ?» Elle s'est presque énervée. « Oui, je les ai mis dans ton sac. File, tu vas rater ton train. »« Eh bien, vous voulez que je vous dise ? Ils n'y étaient pas dans mon sac. » Suite de la deuxième partie dans un autre enregistrement.